Le réseau wallon pour la santé des femmes rassemble une dizaine d'associations et elle organisait une journée qui avait pour thème « Notre santé, faire fleurir les bons gestes ». C'était une opportunité unique d'accueillir et de discuter avec Rina Nissim, naturopathe suisse de passage en Belgique, et de tirer le fil de la transmission du self-help ou auto-santé entre générations. Aux côtés de Rina Nissim, Clémentine Thébault, sage-femme de 33 ans, et Clé Jordier, doula communautaire cuir, 27 ans, qui ont partagé leurs pratiques et expériences. Comment repenser collectivement la santé des femmes et leur bien-être, hors des injonctions et des discours normatifs sur leur corps, leurs choix et leur manière de vivre. Vous êtes le 28 mai 2024, journée mondiale d'action pour la santé des femmes. La table ronde qui suit a été enregistrée à la Citadelle de Namur. Elle clôture une journée d'atelier d'auto-santé pour les femmes. Et c'est Fridou Braun, active dans la SBL Corps Écrit, qui anime le débat.
Donc les étoiles, en fait, nous ont permis d'inviter Rina Nissim en ce 28 mai. Et si le titre de cet événement, Faire fleurir les bons gestes, ben, c'était pour honorer le printemps, oui. Mais c'était sûrement pas pour vous donner des recettes toutes faites. Parce que les prémices de l'autosanté, c'est une démarche collective, que ce soit le self-help, l'autosanté, l'autogynécologie, ben, c'est surtout un espace d'échange et de parole et de pratique, notamment autour de la santé sexuelle et reproductive. Et c'est rendre les savoirs gynécologiques finalement au plus grand nombre de femmes et reconnaître chacune ses compétences en la matière. Donc, avec cette rencontre, c'est vrai qu'on avait voulu, avec le réseau wallon pour la santé des femmes, tirer le fil de la transmission. C'est comme ça qu'en invitant, en ayant l'opportunité d'avoir Rina Nissim aujourd'hui, ben, on a invité deux jeunes personnes, beaucoup, beaucoup plus jeunes, qui peuvent aussi nous parler, évidemment, des enjeux de l'autosanté, des enjeux féministes actuels, d'une autre manière que ce que Rina Nissim a connu dans les années 70. Et ça nous semblait tellement important de faire le lien. C'est pour ça qu'on les a invitées, parce qu'on les a trouvées tout aussi inspirantes. Et donc là, je vais vous laisser la parole pour vous présenter, parce que vous vous présenterez bien, bien mieux vous-même en quelques mots.
Eh bien, bonjour à tous. Moi, c'est Clémentine. Je suis française de base, j'ai 23 ans. Et je suis venue à 23 ans, pardon. Je me rajeunis de 10 ans, j'ai 33 ans.
D'accord.
Je sais pas d'où ça sort.
Vachement jeune.
Et du coup, je suis arrivée à 20 ans pour faire des études de sage-femme que j'ai faites ici à Namur. Et en fait, en sortant de mes études, j'ai été un peu perturbée par tout le monde hospitalier et toute la violence qu'on pouvait y trouver. Et du coup, en fait, j'ai, par mon diplôme de sage-femme, travaillé en tant qu'infirmière. Mais la sage-femmerie, on va dire ça comme ça, m'a attirée quand même beaucoup. Et donc, j'ai trouvé un peu d'autres moyens de la pratiquer en animant des ateliers, notamment d'auto-observation gynéco, en faisant des formations sur la contraception style la synthothermie, donc contraception dite naturelle, en faisant des ateliers sur le cycle menstruel, etc. Donc, c'était un peu mon credo. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, que sage-femme accompagner des femmes enceintes, c'était pas trop mon truc. Mais par contre, redonner du pouvoir aux personnes qui participaient à mes ateliers, ça, j'aimais beaucoup, en leur transmettant des savoirs, enfin bref, en animant mes ateliers, quoi. Donc voilà. Et donc, il y a un an, j'ai sorti une conférence gesticulée sur les violences gynécologiques obstétricales. Et voilà un peu mon parcours de pourquoi je suis ici aujourd'hui.
Alors moi, je suis Rina Nissim. J'ai une formation initiale d'infirmière, je suis naturopathe, auteure, éditrice et militante féministe. Trois mots, super. Quatre.
Moi, c'est Clé, mes pronoms c'est Yel-Il, et je suis doula, je suis professeure de symptothermie. Moi, l'autosanté, j'ai découvert ça dans ma vingtaine, parce que c'était important pour moi de pouvoir me reconnecter à mon corps suite à plusieurs expériences traumatiques. Et ça a été un sacré truc. Je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de connaissances qui pouvaient être partagées et qui étaient importantes. Puis mon coming out est arrivé et je me suis rendu compte à quel point il y avait énormément de choses en matière d'auto-santé et d'autogynécologie dans les communautés queer. Et je suis très contente de pouvoir en parler ici aujourd'hui.
Merci pour les trois mots. Donc, on a voulu faire de cette table ronde une discussion intergénérationnelle, mais avec vous, bien sûr, aussi. Donc, même si on peut remonter jusqu'au massacre de celles qu'on a appelées les sorcières pour prendre conscience de cette rupture de la transmission des savoirs empiriques, parallèlement, évidemment, au trauma collectif, l'histoire qu'on connaît est un peu plus récente. Donc, je vous en parlais, le livre « Notre corps, nous-mêmes », ce groupe de femmes de Boston des années 70, elles ont fait parler d'elles en arrivant ici. Mais ça, je vais laisser Rina Nissim nous raconter sur leur histoire. Dans ce fameux contexte de l'avortement illégal et d'avortement qui était pratiqué dans les années 70, donc tant en Suisse, en Belgique, en France et notamment dans les Blacks. Et comme beaucoup de pratiques orales cachées ou souterraines, informelles, eh bien sans qu'il n'avait pas de cadre précis non plus, il a existé évidemment d'autres formes, d'autres ramifications, d'autres groupes de self-help que finalement on n'a pas retenu dans l'histoire, mais qui ont forcément existé à d'autres époques et forcément sur d'autres continents ou dans d'autres pays. On retient celle-là, mais évidemment ce n'est pas la seule, c'est important de le souligner, quoi. Donc, vous avez une approche de l'autosanté, de l'histoire, vous avez plongé chacune dans une marmite et... Donc, je vous demande à vous trois de nous donner finalement votre définition de l'autosanté à travers vos pratiques et puis quels sont les liens, effectivement, avec les enjeux féministes actuels que vous voulez nous donner. Et ben, tout ça face aux normes sexuelles dominantes et face à la surmédicalisation aussi. Je commence par toi, Rina, puisque c'est l'histoire la plus ancienne. Est-ce que tu peux nous raconter mais comment le mouvement self-help est entré dans ta vie ?
Alors moi, j'avais 16 ans en 68. Alors vous savez, c'est un moment d'ébullition dans tous nos pays. C'est un mouvement qui est issu, entre autres, des luttes pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, des luttes contre la guerre du Vietnam. Enfin, c'est tout un moment d'ébullition assez important dans nos pays. C'était un mouvement où on disait qu'il est interdit d'interdire. Et dans ces mouvements, il y avait toutes sortes de groupes d'extrême gauche dans lesquels les femmes, les lesbiennes voulaient bien volontiers militer. Seulement, ce n'était pas très facile parce que dans ces mouvements, ben, on se retrouvait à faire les sandwichs et les tracts. Et au bout d'un moment, les filles, elles en ont eu marre. Et puis elles sont sorties de ces groupes et elles sont rentrées dans le mouvement de libération des femmes. Chez nous, à Genève, ça commence en 70-71. Et c'est un mouvement donc, de réappropriation du corps par rapport aux luttes qui ont de l'importance à ce moment, l'accès à la contraception, l'accès à l'avortement, mais aussi dans d'autres pays, l'accès à la possibilité de mener une grossesse à terme dans de bonnes conditions, parce qu'on était déjà consciente dans les années 70 de cette contradiction que dans un endroit, on ne peut pas avorter, et dans un autre, on ne peut pas mener une grossesse à terme, on est plutôt poussé à avorter. Donc c'est une contradiction hein, qu'on découvre dans les années 70 déjà. Mais aussi la liberté de la sexualité, de choisir sa sexualité, de choisir si on veut avoir des enfants ou pas. Et quand les avoir, il faut vous imaginer qu'à cette époque, il n'y avait pas grand-chose en matière de contraception. Il y avait le préservatif, la retirette, ça ne marche pas terrible. Il y avait la pilule qui commençait, mais qui était surdosée, qui était 20 fois plus dosée que ce que les jeunes femmes prennent aujourd'hui. Et en plus, il y avait des gynécos qui étaient contre. Il y avait aussi le stérilet qui apparaissait, mais il y avait aussi des gynécos qui étaient contre, qui ne voulaient pas en mettre à des femmes qui n'avaient jamais eu d'enfants. Donc voilà, il y avait une tension. Ce n'était pas acquis. Et donc, ces groupes se lancent. Et moi, je faisais partie d'un groupe de conscience. On faisait des petits groupes de conscience où on partageait nos expériences et on découvrait que ce qu'on trouvait difficile avec nos frères, nos pères, nos amants, les docteurs, les curés, ben finalement, ce n'était pas notre petit problème personnel, mais c'était un problème largement partagé. Et on découvrait donc que le personnel est politique. Et moi, j'ai fait partie d'un groupe de conscience qui faisait des travaux pratiques. Et dans ces travaux pratiques, ben, on a appris, entre autres, de l'influence des États-Uniennes, qui à l'époque avaient déjà beaucoup de cliniques féministes aux États-Unis, à faire de l'auto-examen, à traiter des vaginites, à traiter des cystites, à essayer de faire un maximum de choses par nous-mêmes, sachant que les gynécos ne portent pas forcément un grand intérêt à ces pathologies. Et donc, on a fortement intérêt à être capable de s'autonomiser et d'être capable de faire le plus de choses par nous-mêmes, ce qui nous a amené en 78 à créer le dispensaire des femmes, qui était un centre de santé des femmes, pour les femmes, par les femmes, dans lequel travaillaient des médicales et des non-médicales. Les médicales étaient médecins, infirmières ou sages-femmes, les non-médicales étaient psychologues, enseignantes, ergothérapeutes ou d'autres professions. Et dans chaque consultation, il y avait une médicale, une non-médicale et l'usagère, sur un lit ordinaire, pas d'uniforme. Et elle met elle-même son spéculum, elle regarde en premier son col, et après on discute de ce qu'il y a à faire. Est-ce que c'est un examen gynécologique annuel préventif? Est-ce que c'est une affection? Alors on discute de ça, et on propose un choix entre un traitement allopathique, ou la médecine moderne occidentale, ou un traitement naturopathique. Et donc ça prend du temps, évidemment, de faire ça comme il faut, hein, si on veut bien prendre le temps de discuter des avantages, des inconvénients, tout ça. Et voilà, je vous le fais un peu en cours, parce qu'on aura encore le temps par la suite de développer des questions autour de tout ça. Donc cette deuxième vague du mouvement féministe, si vous voulez, est très axée sur les questions de la sexualité, du contrôle de son corps, de cette envie de réappropriation. Et les ouvrages à lire, à part Notre corps nous-mêmes, peut-être, si vous vous intéressez un peu à l'histoire, je vous conseille Silvia Federici, Caliban et la sorcière, et je vous conseille Infirmière, sage-femme et sorcière, de Barbara Ehrenreich et Jade English, paru tout d'abord au Remue-Ménage au Québec, et puis paru ensuite en France chez Cambourakis. Voilà, c'est extraordinaire, et ça vous remettra sérieusement les choses en place entre le lien entre la médicalisation, le capitalisme naissant à cette époque. C'est vraiment des notions très importantes à reconquérir, parce que ça nous remet bien les idées en place, et du coup, ben, quand on participe à des groupes comme ça, comme vous avez participé cet après-midi, ça recadre aussi dans quel cadre politique nous sommes. Pour rappel, la deuxième vague du mouvement féministe faisait un lien important entre sexisme, racisme et classisme, alors que, en tout cas chez nous, je ne sais pas comment c'était chez vous en Belgique, mais chez nous, dans les années 90, le mouvement qui suit est un mouvement plus réformiste, qui lutte plutôt sur l'égalité des droits, qui obtient d'ailleurs des choses, chemin faisant, hein, mais qui n'est plus tellement dans une approche comme ça. Et maintenant, ça revient, il y a de nouveau... On va voir avec vous, je me réjouis, mais je pense, en tout cas j'observe, que ça revient, cette envie de voir les choses un peu plus globales. Alors on parle aujourd'hui d'intersectionnalité, c'est important, et dans ma petite maison d'édition, j'ai le plaisir, mais je ne les ai pas amenés ici, je suis désolée, d'avoir publié Audre Lorde, Adrienne Rich, des personnes qui ont amené beaucoup, en tout cas pour moi et pour beaucoup d'autres, dans cette conception intersectionnelle. Et ça, c'est un t-shirt qui date d'un groupe self-help suite à des cours. Voilà, je vous présente, chacune a dessiné sa vulve. Voilà, je ne peux pas beaucoup marcher parce que je suis attachée au fil, mais chacune a dessiné sa vulve. Et voilà, c'est bien pour rappeler que le mouvement self-help, c'est une approche collective.
Merci, Rina. Qui a envie de parler?
Allez, j'y vais. Le mouvement self-help, la façon dont moi je le définis, en fait, j'ai l'impression que... Il prend beaucoup place aussi via les réseaux sociaux. Moi, j'ai 27 ans, j'ai grandi avec Instagram notamment. Je suis influenceur sur les réseaux sociaux avec une petite communauté de 10 000 personnes. Et je réalise à quel point ça a contribué à diffuser énormément d'informations autour de la santé naturelle, autour du bien-être, autour de comment faire pour s'observer, se connaître et ouvrir les possibles. Et donc, moi, j'ai la sensation qu'il y a une mouvance de la self-help qui se déroule aussi beaucoup en ligne et qui est très individualiste, parce que ça devient... un outil de développement personnel et quelque chose qui peut se faire seul et dans son coin. Alors que je pense que, de base, l'essence de ce mouvement-là, ça a été de pouvoir créer de la collectivité, de pouvoir échanger ensemble. Enfin, je le vois quand je donne des ateliers On en a donné ensemble avec Clémentine, de se rendre compte qu'en fait, ça crée une connivence quand tout le monde peut venir s'observer, regarder sa vulve, et que c'est pas pareil que chercher des tutos bien-être à faire seul chez soi. Et donc, je pense qu'il y a, ça qui est en train de se passer actuellement.
Ouais, c'est un questionnement, c'est important.
La question, c'était comment c'est arrivé dans notre vie. Qu'est-ce que c'est pour moi?
Qu'est-ce que ça signifie pour toi?
Moi, je l'ai vécu d'abord, je crois, de manière... C'est arrivé petit à petit, mais c'est beaucoup arrivé, j'ai envie de dire, dans mon cercle d'amis. J'étais un peu le fait d'être sage-femme, la référente sexo et problèmes vaginose, mycose. Genre, c'est moi qu'on appelle. Et c'est complètement OK, j'aime bien en discuter, etc. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point, déjà, dans mon entourage proche, en fait, on connaît pas son sexe, on connaît pas sa vulve, on sait pas à quoi elle ressemble, on sait pas de quoi elle est composée. Et donc, déjà, en fait, de voir dans le cercle proche, je me dis, ah ouais, mais en fait, il y a un manque flagrant de connaissances là-dessus. Et ce que je trouve... Oui, on peut trouver des ressources tutos ou même des schémas papier, mais moi je suis désolée, une vulve papier, ça ressemble pas à une vulve en fait. Enfin, entre un schéma anatomique, enfin, c'est compliqué en fait, moi, de me dire ah oui, en fait, ça c'est une vulve. Non, c'est. Et donc je me dis, c'était un peu un questionnement. Et quand on m'a proposé de co-animer des ateliers d'auto-observation gynéco, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est un peu l'évidence de me dire, mais il faut transmettre ça et il faut le transmettre en collectif. Je suis hyper d'accord avec cette notion de collectivité, de dire, en fait, c'est ensemble qu'on arrive à débloquer des paroles ou qu'il y en ait une qui intervient et l'autre qui se dit, ah, mais ouais, mais grave, mais moi, ça m'est arrivé aussi. Et donc, d'avoir vraiment ce mouvement de collectivité et de soutien aussi, parce que c'est des moments où, en fait, on parle beaucoup, et donc ça fait du bien de se retrouver. Il y a des personnes qui n'ont pas de ressources pour aller parler de problèmes de sa sexualité ou de violences gynéco ou de n'importe quoi, mais d'avoir ce moment où en fait on est dans un entre-soi hyper intime, et c'est hyper chouette. Moi j'adore, je sors de là à chaque fois, je suis empouvoirée, mais je sors, j'ai une énergie de ouf, de me dire, c'est fatigant parce que c'est 3 heures d'atelier à animer, mais en fait finalement on ressort de là en se disant waouh, mais en fait on a pu amener à quelque chose quoi. Alors c'est pas grâce à moi, mais c'est d'avoir cet atelier qui s'est mis en mouvement, et à chaque fois je remercie les personnes, parce que souvent c'est oh merci d'avoir animé, mais en fait c'est remercie toi d'être venu dans ces ateliers, parce que c'est pour la personne en fait. Donc voilà, je pars. Mais oui, moi c'est un peu, c'était une réflexion, et puis c'est arrivé dans ma vie comme ça, et ça a été un peu une évidence. Et depuis, j'essaye un peu de lutter, parce que souvent il y a aussi des gens qui me regardent en mode quoi, tu fais des ateliers où les personnes se regardent la vulve et tu montres ta vulve aux gens, genre qu'est-ce que c'est quoi cette folle. Mais je lutte et j'essaye d'ouvrir à fond la parole, et je fais un peu un étendard quoi. Oui, je donne des ateliers, j'anime des ateliers d'auto-observation, et c'est une fierté en fait, et c'est trop cool, et voilà.
Rina, pourquoi ce mouvement reste-t-il finalement caché, underground, souterrain? Comment est-ce qu'on pourrait finalement le remettre au goût du jour au fil des années? Parce qu'entre cette époque-là, les années 70 et aujourd'hui, ben oui, bien sûr qu'il y a eu des groupes, mais on a quand même l'impression qu'il y a des creux et des vagues. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous conseillerais, ou comment est-ce que tu vois les choses? Quels sont les groupes dans lesquels
Je peux rien vous conseiller. Je peux juste analyser que tous les mouvements sociaux commencent dans une ambiance oppressive, évidemment. Donc, hein, quel que soit le mouvement social, je veux dire, forcément, on est minorisé, même si on est la moitié du monde. Donc, on est quel que soit le mouvement. Donc, au début, bien sûr que c'est secret. On peut prendre plein d'exemples qui vont dans le même sens. Le mouvement ouvrier, le mouvement noir, le mouvement des sans-papiers, des femmes sans statut légal qui travaillent dans le travail domestique. On peut prendre plein d'exemples. Et ben, toujours, bien sûr, elles et ils sont isolés. C'est normal. Ça commence mal, par définition. Mais le fait de se retrouver, d'analyser ensemble ce qu'on a en commun, de reprendre confiance en soi, de se dire « non, mais attends, on ne va pas en rester là, c'est quand même pas possible, on va quand même essayer de faire quelque chose de cette situation », ben après, il peut éventuellement se passer quelque chose. Alors, qu'est-ce qui fait que la mayonnaise prend à un moment? Qu'est-ce qui fait que de quelques-unes, on devient 60, on devient 100? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on arrive à faire descendre des centaines de femmes dans la rue? Ben, c'est si on touche un point, un élément de lutte qui est suffisamment partagé pour que ça fasse tilt et que toutes les autres se disent « mais enfin, oui, c'est quand même dingue. C'est fondamental, ce droit ». Par exemple, l'accès à la contraception, à pouvoir avoir une sexualité libre, pouvoir séparer la sexualité de la procréation. Essayez de vous remettre un peu dans l'ambiance, non, des années 50, des années 60. C'est énorme comme chose. Alors si on arrive à toucher un point crucial, énorme, et qu'on arrive à proposer une façon de lutter suffisamment gaie, humoristique, ben oui, on pourrait éventuellement être rejointe. Alors nous, on avait des slogans du genre « ben, une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette ». On les affiche comme ça. Et puis on en avait d'autres du genre « si on peut envoyer un homme sur la Lune, pourquoi pas les envoyer tous ?» Alors c'est... On le prend comme ça un peu à la rigolade, mais non, n'empêche que ça marche, parce que vous rigolez, les femmes rigolent, n'est-ce pas? Alors, avec ça, on peut peut-être faire quelque chose. Alors, dans mon groupe de lesbiennes, Vanille Fraise, groupe de lesbiennes politiques, qui publions un journal qui s'appelait Clip 007, le concentré lesbien irrésistiblement toxique. Alors nous, on organisait des balles des chats sauvages tous les mois. Et puis, on avait une banderole, connaît notre banderole de tête dans les manifs, c'est « hors de la nuit des normes, hors de les normes en nuit ». Alors voilà, il faut trouver des thèmes qui crochent, qui plaisent aux autres aussi, dans lesquels les unes et les autres peuvent se retrouver, que dans leur réalité à elles, ça peut coller. Et à ce moment-là, éventuellement, la mayonnaise peut prendre et il peut se passer quelque chose. Donc je ne peux pas vous dire mieux que ça.
Juste pour revenir à la question de la contraception, étant donné que Clem et Clé, vous êtes formateur, formatrice en symptothermie. Dans les années 70, ben, on luttait pour obtenir ce droit ou l'accès à la contraception hormonale, à la fameuse pilule, qu'aujourd'hui, ou contraception tout court, d'accord, parce que la pilule a quand même fait pas mal de dégâts. Et comment, enfin, aujourd'hui, on est plus dans une autre époque à réclamer autre chose, autrement, à pouvoir gérer sa fertilité de manière autre et plus naturelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors, je dois quand même un tout petit peu nuancer, hein, je m'excuse, parce qu'on avait déjà une critique de la pilule. Hein, si vous regardez, nous venez d'en consulter dans les centres d'archives féministes, hein, vous verrez, on avait une critique de la pilule. On a toujours dit qu'il y avait des avantages et des inconvénients. On n'a jamais masqué ça, hein, je veux dire, le foie, les maux de tête, la dépression, la baisse de la libido. Non, on n'était pas, pas enthousiaste comme
dans
ça.
Dans ce moment-là, mais par contre, la société a quand même mis beaucoup de femmes sous pilule pendant des dizaines d'années. Donc, malgré les contestations et les revendications.
Ça a quand même libéré les femmes hétérosexuelles du moment, il faut quand même le dire. Enfin, bon.
Bien sûr que.
Alors voilà,
que c'est une certaine liberté.
Je voulais juste rétablir ça.
C'est une certaine liberté que, évidemment, les femmes de cette époque ont acquise, mais qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui?
Ben moi, ma lutte par rapport à la contraception, ce serait plutôt d'avoir un choix libre et éclairé. En fait, il y a 19 contraceptions qui existent, et je pense qu'il y en a même plus que ça. Mais sur le marché, on va dire qu'il y en a 19. Et en fait, quand on est en consultation gynéco, on en a 3 de proposer, grosso modo. Entre la pilule, le stérilet et l'implant, à la limite. Mais voilà quoi. Donc moi, c'est vraiment une lutte de se dire, en fait, il faut qu'il y ait, en fait, juste pour moi, des consultations qui soient des consultations spécialisées en contraception, où on prend le temps de nommer ces 19 contraceptions et de donner tous les avantages et de donner tous les inconvénients et de donner tous les chiffres de fiabilité, etc. Moi, c'est vraiment... c'est de ça dont... Enfin, moi, c'est ma lutte maintenant, et donc je donne ces consultations, enfin, ces ateliers-là aussi. Et vraiment, même la définition du choix libre et éclairé, parce que souvent, on ne sait pas, mais de dire qu'en fait, oui. En fait, peu importe, moi, mon avis de soignante, de me dire que le retrait, ben, moi, je trouve ça pas top. En fait, je m'en fous que moi, je trouve ça pas top. Il faut que je donne l'information que le retrait existe. Par contre, que la fiabilité, elle est pas terrible, mais que ça existe, en fait. Et donc, de vraiment voiler ce regard subjectif du soignant ou de la soignante dans la contraception et de pouvoir faire une table rase, je crois, de nos avis pour pouvoir donner le plus objectivement possible toutes ces contraceptions. Voilà.
Je vais rebondir. C'est trop marrant que tu aies parlé du retrait parce que moi, souvent, j'aime rappeler aux gens que l'indice de peur réel du retrait, son taux de fiabilité, il est même plus fiable que le préservatif féminin qui est souvent mal mis, qui glisse, qui ne va pas très bien, quoi. Et ça, au niveau des chiffres que nous donne l'OMS, c'est aussi... je trouve que c'est super flagrant, finalement, le côté de... On a des idées de qu'est-ce qui est fiable ou qu'est-ce qui l'est pas. Mais quand on va vraiment chercher, au niveau des données et des statistiques, pouvoir permettre aux personnes de faire un choix libre et éclairé, c'est important, quoi. Et moi, j'avais envie de parler de deux choses. La première, c'est la démocratisation des méthodes naturelles. Et la deuxième, c'est le partage de la charge contraceptive. La démocratisation des méthodes naturelles, parce que pendant très longtemps... ce sont des méthodes qui ont été utilisées un peu à huis clos, qui ont été transmises de mère en fille, notamment dans les milieux religieux, par exemple. Il y a encore plein d'endroits où la symptothermie ou la méthode Billings sur l'observation de la glaire sont des choses qui sont apprises pendant la préparation au mariage, dans le cadre d'un mariage religieux. Et j'ai l'impression que ce qui se passe en ce moment, c'est que ça se démocratise de plus en plus, notamment donc, grâce aux réseaux sociaux, grâce il y a des applications qui existent maintenant qui contribuent à démocratiser de plus en plus la symptothermie et que c'est un nouveau moyen de vulgariser de l'information. Et ce que je remarque, c'est que les personnes sont de plus en plus friandes d'alternatives qui permettent un partage de la charge contraceptive, qu'elles n'ont plus envie d'être les seules personnes à le porter dans leur corps, en fait, les impacts des effets secondaires. Enfin, moi, les personnes que j'ai en consultation, c'est principalement pour ça, le côté de « je veux une contraception qui soit naturelle ». En fait, je veux apprendre à connaître mon corps si je ne suis fertile qu'une semaine par cycle environ. Pourquoi est-ce que je prendrais quelque chose tout du long alors que c'est un impact fort sur moi? Et je remarque qu'il y a de plus en plus de personnes aussi qui se tournent vers les contraceptions dites masculines, notamment les anneaux de remontée testiculaire qui commencent à devenir de plus en plus, on en parle beaucoup plus, et de se rendre compte que, voilà, en fait, comment est-ce qu'on partage les contraceptions? Est-ce que ça peut être toi qui fais de la symptothermie pendant un moment et puis moi qui vais finalement me remonter les testicules quelques années plus tard et que ce soit un choix pour les deux entités d'un couple hétérosexuel.
Un autre sujet que je voulais aborder, Clem, c'est la question des violences gynécologiques et obstétricales dont tu as parlé. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Évidemment, elle a toute une conférence gesticulée là-dessus, mais voilà, quelques mots.
Déjà, les violences gynéco et obstétricales, ça remonte à... toujours. C'est depuis le mouvement MeToo que ça commence à un peu sortir avec balance ton gynéco, etc. On en est quand même qu'aux prémices parce qu'en fait, il n'y a pas d'études, il n'y a rien du tout. Donc, il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de livres qui viennent libérer la parole, etc. Mais en fait, des études concrètement de dire combien de femmes ou de personnes qui ont un suivi gynéco subissent des violences, etc., ça, c'est encore, on n'y est pas du tout. Si vous avez des études, moi je suis preneuse d'avoir l'information. Mais du coup, le lien moi, que je fais avec le mouvement self-help et, les violences, il y a deux trucs. Donc il y a le côté autonomisation, en fait. Et donc, pour une vaginite, si on sait vraiment que c'est une vaginite et qu'on a son traitement perso, naturel, etc., bon, bah, go, allons-y. Et l'autre côté, c'est la diminution de ces violences à travers le fait qu'on connaisse mieux son corps. Donc, on va, par exemple, moi, je demande, quand je suis en consultation, de mettre le spéculum moi-même. Parce qu'en fait, entre insérer quelque chose dans mon vagin toute seule et que quelqu'un le fasse et que ça soit hors rapport sexuel, je préfère que ça soit moi qui le fasse. Donc déjà ça, en fait, ça diminue beaucoup de violences parce que moi, j'ai vécu aussi des violences gynéco, dont une qui était cette insertion de spéculum d'une manière tellement violente que j'ai marché en cow-boy pendant plusieurs heures d'avoir mal au vagin. Donc voilà, il y a des... Alors, je ne suis pas persuadée que de faire des ateliers d'auto-observation, ça va diminuer drastiquement les VGO, parce que, en fait, c'est des violences qui sont faites par des soignants, et donc c'est aussi aux soignants et aux soignantes de se bouger le cul, et donc de se former, et donc de se déconstruire, et de venir un peu apprendre en tant que soignante ou soignant, quels sont les gestes que je peux faire, quelles sont les questions que je peux poser qui vont éviter de mégenrer les gens, de moins les prendre de haut, enfin bref. Donc il y a toute la part côté soignant et soignante, que nous, on est un peu... si on peut militer contre ça, et moi, dans ma conférence, c'est aussi ça que je fais, c'est que j'essaye de sensibiliser peut-être les soignants et les soignantes. Mais je trouve que du côté de la patiente, de mieux connaître son corps et donc de savoir à quoi ressemble mon col de l'utérus, à quoi ressemble ma vulve, à savoir mettre un spéculum, en fait, je suis aussi moins dépendante. Et moi, je trouve que ma relation soignant-soignée, plutôt qu'elle soit complètement déséquilibrée, je viens en tant que patiente et je connais tellement pas mon corps que c'est oui, amen, faites tout ce que vous voulez parce qu'en fait, je sais pas ce que vous faites, ça se rééquilibre à travers la meilleure connaissance de son corps, en fait. En se connaissant mieux, en fait, on a aussi une meilleure maîtrise. Et donc, on a aussi du répondant de « Ah, mais pourquoi vous faites ça ?» Et donc, peut-être d'être plus active aussi dans la consultation. Alors, c'est des beaux mots. Je ne veux pas du tout culpabiliser les personnes pour qui c'est compliqué, parce qu'en fait, dire non, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Et donc, c'est très compliqué aussi. Donc, je sais que ça peut être culpabilisant. Des fois, j'arrive avec ma conf en mode « Oui, alors, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. » Ouais, mais il faut déjà apprendre la base à dire non et à se connaître et à porter sa voix face à quelqu'un qui, en fait, un soignant, c'est une personne qui nous domine parce qu'on est dans un rapport de domination patriarcale, etc. Et donc, du coup, c'est déjà d'apprendre peut-être... Donc, il y a plein de choses. Mais voilà, le self-help, pour moi, ça m'a permis de contrebalancer, de rééquilibrer cette relation soignant-soignée, entre autres. Voilà, je ne m'étends pas plus.
Avant de vous donner la parole, il y a un sujet très important, Clé, qui est l'inclusion queer et puis l'appropriation culturelle, dont tu avais envie de nous parler, ce qui est deux gros sujets.
C'est beaucoup, on va faire court.
On va essayer de faire court.
Ouais, on va faire court. Oui, moi, ce que je remarque à l'intérieur du self-help en ce moment, c'est à quel point il est... à quel point parfois les ateliers d'auto-observation dérivent assez vite sur des ateliers un peu plus new age ou spirituel ou des choses comme ça, où du coup on sort de l'observation du corps pour pouvoir parler davantage d'essentialisme, d'énergie, de plein de choses comme ça. Et je trouve que c'est parfois dommage, en fait. Je trouve que parfois certaines personnes, en ayant en tête l'idée que on a été déconnecté de nos savoirs, mais il y a des peuples là-bas qui savent mieux que nous, qui sont plus en accord avec leur corps, qui... se repère mieux dans l'espace ou qui se repère mieux dans tout, quoi. Ça fait énormément d'exotisation, déjà. Et ensuite, je trouve que la dérive de l'appropriation culturelle qui est à l'intérieur, c'est qu'il y a beaucoup de... Il y a de plus en plus de gens qui, du coup, se disent que « Ah, je suis partie quelques semaines, quelques mois dans telle contrée lointaine et là-bas, ils font comme ça. » Du coup, je pense que je comprends très bien comment ils font et je vais aller expliquer ça à tout le monde, éventuellement en le marchandant, c'est-à-dire en le commercialisant, parce que le capitalisme ne nous épargne pas. Et ouais, enfin, du coup, ça, je trouve que c'est un sujet à l'heure actuelle. J'avais envie d'en toucher deux mots. Et oui, et la question de l'inclusion queer, mais mon Dieu, ça va faire trop, du coup, je vais essayer de faire très, 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 très court. de dire que toutes les personnes qui participent à des ateliers d'auto-observation ne sont pas forcément hétérosexuelles, ne sont pas forcément des femmes cis non plus. Et que je pense que c'est le prendre en considération est important pour les personnes qui facilitent ces espaces, de façon à pouvoir les rendre les plus... arrêter de faire des généralités sur qu'est-ce qu'est censé être l'expérience d'une femme, de la femme, parce qu'elle n'existe pas, il n'y en a pas une unique. Il y a au contraire plein de façons différentes de vivre avec, avec son vagin et qu'elles sont influencées par... par le cadre dans lequel on évolue.
Est-ce que c'est le moment de vous donner la parole si vous avez des questions ? Pour vous, c'est OK ? Des questions, des commentaires, des envies, des souhaits. Alors, Valérie.
Bonjour. Alors, moi, il y a une vingaine d'années, j'ai eu une première fille. Et puis, ça ne s'est pas très bien passé, la naissance. Donc, je fais un peu écho à ce que tu dis. Et... du coup, j'ai eu envie d'avoir une sage-femme qui m'accompagnait parce que j'en avais entendu parler. Et ça a été le jour et la nuit. Et donc, ces sages-femmes ont fêté la première année de collaboration qu'elles faisaient à Troyes avec une grande fête des bébés nés dans l'année, dans le cadre duquel est née une ASBL de parents et futurs parents qui s'est appelée Alternative. Et en fait, de cette expérience-là, moi, ce que j'ai vraiment... gardé de merveilleux, c'était que c'était une période où en fait on ne parlait pas encore beaucoup de l'aptonomie, la sophrologie, du champ prénatal, tout ça c'était pas très connu. Et donc on a décidé de faire non seulement des conférences, rencontres avec des témoins. Et donc il y avait des sages-femmes qui venaient parler de la naissance en maison de naissance par exemple, et des parents qui avaient vécu ça, qui le partageaient. D'autre part, on a fait des fiches d'infos sur un site web avec quel est le rôle de tel geste gynéco, quel est tel métier, qu'est-ce que cette personne fait. Mais surtout, on a beaucoup travaillé sur le projet de naissance aussi. Qu'est-ce que je veux vivre au niveau de l'accouchement? Qu'est-ce que je veux vivre au niveau de la grossesse? Qu'est-ce que je veux vivre au niveau du postpartum dans un monde idéal? Et où je veux bien déroger ou pas? Et on a travaillé ça vers les soignants tout autant que vers le public, le grand public. Moi, j'étais particulièrement chargée des relations de presse, donc j'ai beaucoup travaillé la presse par rapport à ça. Et ça a vachement fait changer les choses. Et ce que les sages-femmes nous avaient donné comme info, parce que c'était leur initiative que tout ça, la petite graine était plantée en disant « Nous, en tant que professionnels, on est en dessous des médecins, on ne peut pas parler, on ne nous écoute pas. » Mais les clients, c'est vous, c'est les parents. Et donc, aller toucher les gens qui sont vraiment les clients était beaucoup plus pertinent que de se battre en tant que professionnel en interne. Et par exemple, on a publié au tout début le rôle de la sage-femme dans Gaël. J'avais une journaliste qui avait fait un super reportage par rapport au rôle des sages-femmes. Et ce document a été affiché dans un hôpital ici à Namur. Je ne le citerai pas. Et donc, les sages-femmes se sont dit en lisant le document, mais en fait, notre métier, c'est ça. Et ce qu'elles vivaient au quotidien, c'était, moi, je voudrais bien aller jouer au golf, on va provoquer un peu plus, hein, parce que la petite dame du 12, là, ça n'avance pas. Et donc, ça a changé, mais plein de choses, parce que là, en interne, elles ont fait leur mini-révolution. Mais ça a changé aussi plein de choses par rapport aux parents qui venaient à ces cercles de parole, parce qu'on faisait aussi des rencontres parents-futurs parents. Au départ, dans notre salon, avec des coussins. Puis finalement, il n'y avait plus assez de coussins, même avec les chaises, les divans et tout. Il y avait trop de monde, donc on a commencé dans des salles plus grandes. Et on s'est retrouvés dans 19 villes en Belgique quand même. Et ça a duré une bonne 10-12 ans. Et en fait, cette association s'est arrêtée. Il y a la plateforme pour la naissance respectée qui a pris plus ou moins le relais, mais qui en fait fait moins d'informations vers les parents et plus, j'ai envie, d'informations... je pense, vers les professionnels et aussi beaucoup de lobbying politique, ce qui est excellent aussi. Et voilà, s'il y a des gens qui ont envie de reprendre des flambeaux comme ça, je pense que vraiment, de mon expérience personnelle, c'est génial au niveau du vécu, parce que moi, c'est une expérience de vie que je n'oublierai jamais. et des cadeaux au quotidien. Mais aussi, je pense que c'est vraiment un super moyen de, que ça parte de nous, en fait. De nous en tant que personnes individuelles et qui se mettent ensemble, quoi. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça.
Merci. Merci, Valérie.
Merci. Mais moi, simplement, vous parliez de... C'est toi, je pense, qui parlait de 19 contraceptions. Et moi, je me demandais si l'info, on pouvait la trouver facilement. Est-ce qu'il y a un site internet où, par exemple, on peut trouver cette information-là? Parce que je trouve ça hyper intéressant de pouvoir partager ça. Moi, je n'étais pas du tout au clair.
Bah, je crois qu'il y a un site internet qui s'appelle genre macontraception.be.
Ça a l'air bien, ça.
Je vois que ça hoche de la tête. Et là, y a... c'est tout répertorié.
OK.
Il ouais, avec... y a super. Un tableau avec... Et est-ce que c'est sur ce... Parce que je te vois hyper hoché la tête. Est-ce que c'est sur ce site internet où tu peux faire tes recherches en fonction de genre... Je cherche une contraception hormonale et il va te sortir que les hormonales. Un truc un peu didactique. Je sais qu'il y a un site internet qui existe comme ça où tu peux dire, bah, je veux... enfin, tu vois, en fonction de tes critères, et ça te donne les contraceptions. Voilà.
Donc macontraception.be.
Avec les différentes contraceptions classées, avec les critères. Quand je ne sais pas s'il y a une recherche par critère.
Voilà, donc elle ne sait pas s'il y a une recherche par critère, mais il y a bien un tableau par...
Mais en fait, moi, ce que je trouve un peu dommage dans le tableau, c'est que si je te parle de diaphragme, est-ce que tu sais ce que c'est? Ben, pas forcément. Et en fait, je trouve ça chouette d'avoir des consultations, plutôt, parce que tu peux vraiment expliquer la base de plein de trucs, de l'avantage, enfin, même en dehors de l'avantage et de l'inconvénient, mais de... Enfin, de la technique en soi, de... Moi, j'ai un mini stérilé, tu vois, que tu peux voir, j'ai le diaphragme, enfin bref, d'avoir un truc un peu plus en one-to-one ou en groupe, tu vois, mais d'avoir quelque chose d'un peu plus didactique, interactif que le site internet. Ça serait mon reproche, mais je pense que tu les trouves. Sur l'OMS, t'as aussi des tableaux avec toutes les contraceptions. Alors, attention! Je fais un petit gros attention, surtout en fait, je pense aux stérilés en cuivre. Les chiffres sont plus du tout d'actualité. Surtout le stérilé en cuivre, qui était un stérilé du coup, qui, quand tu vois, à l'époque de Rina, il était mis pour des femmes qui n'avaient pas d'enfants, et donc du coup, qui était d'office plus âgé que les stérilés qu'on met pour des personnes maintenant qui peuvent avoir 18 ans, 16 ans, 20 ans. Où la fertilité, elle est à son summum. Et donc, en fait, pour moi, les chiffres sont plus du tout probants. Donc, c'est un gros warning, surtout le stérilé au cuivre, parce qu'on entend énormément de grossesses sous stérilé en ce moment, parce qu'on est aussi dans un truc de... On baisse le dosage en cuivre, machin, etc. Et donc, du coup, il y a quand même beaucoup... Et ça, il n'y a pas de nouvelles études sur ce stérilet. Ça serait vraiment intéressant de faire un gros lobbying là-dessus parce que... Voilà, donc c'est le gros warning. Si... Attention, voilà.
Mais... Je mets aussi un petit point d'attention sur la question des diaphragmes et des caps cervicales. Et peut-être que Hélène peut nous en parler parce que c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas en Belgique à un moment donné et on était obligé de passer par des sages-femmes. Est-ce que c'est toujours le cas?
Non. Non, je me permets de répondre. Du coup, non, tu peux. Alors, moi, des fois, pour les femmes qui sont, enfin, pour les personnes qui ont des vagins et qui sont pas très à l'aise avec leur corps, je conseille de trouver quelqu'un qui fait une consultation diaphragme pour pouvoir avoir ce truc de, on met le diaphragme. Genre, la sage-femme le met à la personne check dans son vagin en disant « Ah, ok, il est bien mis, etc. » Et donc, il y a un espèce de contrôle d'une première consultation. Mais sinon, non, il se trouve en pharmacie. Et alors, en France, il est sous prescription médicale, mais pas en Belgique. Donc, on peut juste... Alors, la pharmacie, souvent, le commande en France, mais bon, c'est en une journée, hein, c'est fait. Et il est remboursé par la mutuelle. Donc, il faut demander au ticket de la pharmacie... en contraception et en fait la mutuelle rembourse une cinquantaine d'années en fonction cinquantaine d'euros en fonction de la mutuelle par an et donc du coup ça fait partie du remboursement. J'étais
malgré que je suis une historique, j'aimerais quand même intervenir sur ce point-là parce que pour moi c'est pour toutes qu'il faut avoir une consultation pour une mesure de diaphragme, je m'excuse, c'est pas une histoire d'être à l'aise ou pas à l'aise parce qu'en fait Il y a différentes façons de le mettre. On peut le mettre très serré en haut, on peut le mettre le remonter jusque derrière l'os du pubis. Donc il y a vraiment différentes positions. Et dans ma pratique, dans nos pratiques des centres de santé de femmes, on a toujours proposé ça en consultation. On prête un diaphragme à la dame, on lui dit de l'emmener à la maison, passer une nuit avec pour voir si le lendemain matin elle le sent sur la vessie quand la vessie est pleine. Éventuellement faire un essai avec un rapport avec pénétration, voir si dans le rapport avec pénétration ça a fait bouger le diaphragme ou pas. Revenir une deuxième consultation avec le diaphragme en place depuis le matin, pour voir si dans la journée ou au moment où on se détend, il n'y a pas de nouveau du jeu, de vérifier que ça ne floppe pas. Si on veut vraiment avoir des bons résultats avec le diaphragme, j'insiste pour qu'on passe par ces différentes étapes et pas qu'on fasse de l'automédication avec une commande sur Internet.
Donc raison de plus pour passer par une sage-femme.
Une sage-femme,
J'en connais au moins deux à Namur. Maintenant, d'autres, celles que je connaissais. Enfin, oui.
Et en fait, il existe aussi maintenant un diaphragme à taille unique.
Ah non, mais alors
là
ça...
où avant. Parce qu'en fait, les anciens diaphragmes, on devait mesurer parce qu'il y a différentes tailles en fonction de la taille du vagin, etc. Et maintenant, ils en commercialisent un où ils disent qu'il est valable pour 99% des personnes.
Non, ça, je suis désolée, j'ai 40 ans de pratique en gynécologie et j'ai fait des centaines de touchés. Et non, le diaphragme à taille unique, je vous prie de m'excuser, mais ça ne tient absolument pas la route. Qui plus est, avant le premier enfant, après le premier enfant, pour la femme elle-même, les tailles vont changer. Non, alors si vous voulez avoir des échecs de contraception, faites la taille unique. Alors, si vous voulez faire jouer votre ambivalence de grossesse, allez-y joyeusement.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais... Ouais,
c'est ce que j'avais entendu aussi, mais... Après,
commerce, hein.
Je sais pas si Hélène, tu veux réagir ou bien non, tu as l'impression que tout a été dit.
Donc, moi, je propose effectivement des consultations pour prescrire. C'est essentiellement le diaphragme parce que la CAP, c'est quand même plus rare qu'on la prescrive. Et effectivement, je propose plusieurs consultations. Donc, je vois les femmes quand même plusieurs fois. La première consultation, déjà, c'est pour leur présenter tous les moyens de contraception qui existent. En leur montrant, elles peuvent les toucher, elles peuvent les voir, comprendre comment ils fonctionnent, etc. Et puis souvent, je leur dis de dormir là-dessus et puis qu'elles en discutent avec leur compagnon, leur compagne, enfin voilà, que ce soit une discussion. Et puis après, je leur propose un deuxième rendez-vous et là, on rediscute de leur choix. Et si elles se dirigent alors vers un diaphragme, alors à ce moment-là, j'ai la possibilité de pouvoir leur faire expérimenter le diaphragme. Et donc, elles apprennent à le mettre elles-mêmes. Et puis, elles vérifient, elles peuvent se mettre en mouvement pour voir un peu comment elles le sentent quand il est en place. Et puis, elles apprennent à vérifier s'il est bien mis, à sentir si elles sentent leur col derrière le diaphragme, etc. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ça nécessite... Je suis d'accord par rapport à ça. Ça nécessite vraiment une consultation. Et pour moi, le danger, c'est ça, c'est l'accessibilité trop facile à ce genre de contraception sans avoir un accompagnement. C'est là qu'il y a des risques, évidemment, d'échecs de contraception pour moi. Donc voilà.
Et je pense qu'en fait, on parle du diaphragme, mais de façon générale, les autres contraceptions non hormonales fonctionnent à partir du moment où elles sont pratiquées correctement. Pour pouvoir valider la pratique correcte, c'est nécessaire de venir remettre du lien, de venir remettre de l'échange entre une personne plus expérimentée et une personne novice. Et qu'en fait, ça, c'est ce que Internet nous empêche de faire, en quelque sorte, sur le côté de l'information, elle est accessible. On peut tout avoir d'un coup maintenant, mais je pense que la validation de la correctitude, ça se dit pas, des choses... Elle se fait en parlant, enfin, voilà. Et du coup ça reboucle un peu sur c'est important les ateliers où tout le monde est ensemble et parle.
Et alors j'ai testé aussi les moyens, enfin, je trouve que de les avoir expérimentés soi aussi pour pouvoir en parler aussi voilà, auprès des femmes, c'est quand même aussi plus facile. Voilà.
Tu proposes les plusieurs sortes de diaphragmes?
Alors, c'est vrai qu'au début, donc il n'y avait pas encore le Kaya commercialisé. Donc, au début, je testais pour la taille, pour voir, voilà. Et on voyait avec les femmes comment ça se mettait au niveau de leur anatomie. Et c'est vrai qu'ici, dernièrement, j'ai eu quelques prescriptions de Kaya. Enfin, en tout cas, des femmes qui ont testé le Kaya. Donc, c'est le diaphragme à taille unique.
Et j'en ai quand même eu une où, effectivement, elle avait voilà, la petite encoche derrière le pubis qui permet que ça ne bouge pas. Mais elle, son anatomie faisait que ça ne tenait pas, en fait. Et donc, le diaphragme bougeait. Donc, je pense aussi qu'effectivement, il y a parfois des anatomies chez qui ça ne pourra pas convenir, en fait. Et donc, voilà. Je pense que, en tout cas, la consultation reste indispensable pour moi.
J'avais envie d'aborder deux petites choses, mais qui sont liées, parce que tu te dis, oui, il faut encore trouver les personnes ressources. Et justement, je sais que Axel Magazine avait publié un lien pour avoir des gynécos féministes, mais au-delà de féministes, il faut aussi, en tout cas pour la question des lesbiennes, il y a peu de gynés qui sont au courant même des particularités des lesbiennes, qui peuvent les informer, et au-delà de ça, il y en a plein qui sont lesbophobes. Donc ça rejoint aussi les violences gynécologiques, et donc je trouve qu'il faudrait un peu plus s'emparer aussi de ces questions-là. Moi, j'ai aussi animé des ateliers qui s'appelaient les ateliers GWIX, pour justement parler de sexualité, de safe, de enfin voilà, et c'est affolant de voir la méconnaissance aussi des lesbiennes de leurs propres et particularités et possibilités et donc ça manque cruellement et je trouve qu'on pourrait déjà aussi commencer par là, c'est déjà de donner des coordonnées de gyné, de doula, de sage-femme, de ou d'avoir un centre dans lequel on peut se voilà aller ou enfin voilà.
Je sais que on a la plateforme Go to Gynéco qui référence des professionnels de santé qui sont sensibilisés aux questions lesbiennes et bi de façon à pouvoir accompagner ces publics spécifiques sans toutes les joyeusetés que tu as pu citer précédemment.
C'est une plateforme qui recense les gynécos qui sont pas lesbophobes, justement, et qui les forment. Donc, enfin, gynécos, médecins, qui viennent vraiment chercher les... Enfin, ils ont deux missions, c'est via l'ASBL OYES. Donc, il y a deux missions sur Go to Gynéco, qui est informer le public lesbien que ça existe, et des particularités, etc., et d'aller chercher les soignants et soignantes qui sont formés ou qui sont OK, et tout ça, quoi. Donc, il y a vraiment un double objectif.
Et il y a un équivalent pour gay mec qui s'appelle un très très bon médecin.
Alors moi, l'un de mes rêves, c'était de regrouper, alors pas seulement pour les lesbiennes, mais effectivement pour tout le monde, de regrouper, de réunir les adresses de gynéco friendly ou en tout cas qui sont, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant. Oui, c'est fait. Comme Rina le raconte en Suisse à Genève dans les années 70, où elle distribuait des tracts avec qui est le chouette gynéco qu'on peut aller voir. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a un problème légal. On ne peut pas dire du mal d'un gynéco. Donc, sur Internet, ça risque d'être quand même un peu, voilà, limite. Et puis, d'autant plus si ça part d'une association. Donc là, voilà, je suis encore tout à fait... Donc j'ai une liste, moi, de gynéco, de mes copines qui m'ont dit que machin, et j'ai une petite liste que j'envoie à celles qui veulent de Bruxelles ou Brabant Wallon, mais c'est franchement pas du tout réactualisé, c'est pas... Enfin, voilà, j'aimerais en faire plus, mais...
Moi, souvent, on me pose la question en mode « Ah, Clem, gynéco, sage-femme, etc. » Moi, j'en ai pas beaucoup, mais c'est surtout le bouche-à-oreille. Demandez à vos potes, c'est ce qui marche le mieux. C'est de demander à toutes ces copines, ou c'est, enfin, vraiment toutes les personnes concernées par la gynéco dans votre entourage, qui est ton gynéco et est-ce qu'il est cool ou est-ce qu'elle est cool. Et pour moi, c'est la meilleure face. Enfin, je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Alors après, peut-être que personne ne va te, personne ne va te répondre. J'en sais rien, mais moi, c'est souvent ce que je conseille, parce que non, il n'existe pas. En France, il y a un site qui s'appelle Go to Gynéco, d'ailleurs. Ah oui, gynéco, pas go to gynéco, oui, mais en Belgique, non.
Nous, ce qu'on faisait, c'est un fichier des gynécos, donc on recueillait des témoignages sur fiche à l'époque, hein, il n'y avait pas Internet. Et ça, je crois qu'on ne peut pas empêcher à des personnes de donner des témoignages sur comment ça s'est passé, leur consultation, avec un descriptif, les langues que la personne parle, pour le stérilet, contre, je sais pas quoi. Donc, de sorte qu'il y ait des témoignages assez, assez précis. On ne peut pas empêcher les personnes de donner un témoignage, non ?
Précis et positif, mais négatif, ça, on risque gros.
Il faut revenir aux fiches, c'est pas compliqué. Alors nous, on avait fait un fichier. Alors c'était pas un tract, hein. c'était un résumé du fichier des gynécos avec trois lignes, et on le déposait dans les librairies alternatives. Les personnes venaient, prenaient le fichier sur papier, hein, sans signature, sans rien. Et au bout d'un moment, c'est les gynécos qui nous contactaient pour dire, mais moi, je viens de m'installer, je parle trois langues, et puis je suis prête à donner aux femmes un miroir pour qu'elles puissent regarder leur col. Et c'est ça, il faut bien mesurer le pouvoir que vous avez. Il ne faut pas le sous-estimer. Je reviens un petit peu là-dessus, parce que j'ai entendu les vocabulaires qui sont employés. Vous parlez de patiente, vous parlez de cliente, mais non, moi, je parle d'usagère de la santé. Et je pense qu'en tant qu'usagère de la santé, vous avez plus de pouvoir que vous ne croyez. Un groupe de femmes qui ont suivi, qui ont préparé leur grossesse ensemble, un groupe de femmes qui ont vécu ensemble, je sais pas moi, un suivi, leur ménopause, ou bien une expérience par rapport au fibrome, ou je sais pas quoi. Vous vous rendez pas compte, vous avez un pouvoir important en tant que groupe. Si vous vous constituez, vous pouvez avoir un impact sur les soignants plus important que vous ne croyez. Et quand on va, par rapport à la consultation, par rapport à la consultation dont tu parlais, si on a un savoir, on tient déjà mieux le coup dans une consultation. Moi, ce que je propose, et je continuerai à proposer, c'est de vous faire accompagner, aller à deux en consultation. Il y a beaucoup plus de chances que vous parveniez au bout des trois questions que vous aviez prévues.
Moi, je voulais réagir. L'aspect aussi de collectif et de parler des choses. Moi, j'ai subi des violences gynécologiques. Et je m'en suis rendu compte parce que je travaillais dans le domaine et que j'ai expliqué ce qui s'était passé et qu'on m'a dit en fait c'était pas du tout OK ce que tu as vécu. Donc je trouve que c'est important d'en parler, même pour les personnes qui pourraient subir des violences et qui ne savent pas que ce sont des violences, jusqu'à ce qu'on dise en fait qu'on te demande de te mettre entièrement nue et tout le tralala, c'est pas du tout OK, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc même pour savoir ce qui est OK, comment faire pour que ce soit OK et ce qui est pas OK, éclairer. En fait, moi, je pense à mes filles, en fait. Moi, j'en parlerai, évidemment, dire, voilà, comment ça se passe, je les accompagnerai, mais je trouve que c'est important, quoi.
Une bonne brochure qui explique ce que c'est qu'un examen gynécologique avec tous les détails. Avec la brochure, après, on...
Mais ça, en fait, il y a un énorme tabou aussi de toutes ces violences. On en parle très peu, c'est ça aussi le...
Non, je voulais juste rebondir par rapport à ça, par rapport à notre attitude face aux blouses blanches. Je suis moi-même blouse blanche. Et je suis choquée de voir à quel point il y a une espèce de blocage, comme si la personne, parce qu'elle avait une blouse blanche, ben, elle savait mieux que vous ce qui était bon pour vous et qu'elle vous connaissait mieux que vous. Alors n'oubliez jamais que la personne qui vous connaît le mieux, c'est vous. Et ne vous laissez pas impressionner. J'ai personnellement, c'est à mon quatrième accouchement que j'ai vu gynéco arriver avec son truc là pour percer la poche des os et que j'ai osé lui dire « Docteur, pourquoi ?» Parce que c'était mon quatrième enfant, mais la plupart des femmes, le docteur, il sait mieux que moi. Mais non, le docteur, il sait des choses, mais vous, vous sentez votre corps, vous savez. Et moi, je lui ai dit, mais docteur, pourquoi? Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Mais il est midi, je voudrais aller dîner. Et qu'est-ce que moi j'ai dit? Je dis, mais docteur, allez dîner, je vais accoucher avec la sage-femme. Mais c'était mon quatrième enfant. Un premier enfant, il serait arrivé, j'aurais dit, il sait mieux que moi, c'est certainement nécessaire. Et j'aurais même pas compris que c'était percer la poche des os qu'il allait faire. Comme c'était mon quatrième enfant et que je me suis beaucoup intéressée à ça et tout, mais je me dis, c'est dingue, quoi. Et le gars, et voilà, il faut oser et il faut pas se laisser impressionner. Le gars, retirer lui sa blouse blanche, faites comme on fait avec les profs à l'école, là, imaginez-le à poil, quoi. Hein, vous disiez ça quand vous êtes impressionné à un examen, imaginez votre prof à poil et puis comme ça, il vous impressionnera moins. Je sais pas si on vous a dit ça quand vous passez des examens oraux, mais faites pareil avec les soignants, vous laissez pas impressionner. Le gars, c'est juste un gars, la nana, c'est juste une nana. Et la personne qui vous connaît mieux, c'est vous. Et la personne qui doit vous faire respecter, c'est vous-même. Et n'ayez pas peur de poser des questions et de les remettre en face. Voilà, moi personnellement, mon gynéco, qu'on trouvait que le diaphragme, c'était vraiment pas un moyen de contraception, mais moi je lui ai demandé, j'ai moi-même mis le diaphragme, je lui ai demandé de vérifier s'il était bien mis. Et il a quand même pas dit non. Mais voilà. Mais pour lui, c'est pas un moyen de contraception, mais c'est son job, donc moi je lui demande, voilà, moi je le mets, vous vérifiez si c'est bien mis, et ça c'est votre job. Et si vous. Voilà, et c'est rare qu'il vous dira non, mais il faut pas avoir peur de vous faire respecter et d'oser poser les bonnes questions. Et c'est les soignants à travailler. Moi, je travaille sur un projet qui vient de Suède qui s'appelle le projet TUBE, où en fait, T-U-B-E, où les soignants se remettent en question. Et une des questions qu'on se pose, c'est qui suis-je pour savoir mieux que la personne ce qui est bon pour elle? Parce que bien souvent, le soignant, il sait mieux que vous, ce qui est bon pour vous. Et il est temps que les soignants se remettent en question et se posent les bonnes questions. Mais il est temps aussi que les personnes retirent de leur tête cette idée que la personne a une blouse blanche et que donc elle sait, et il faut juste la respecter, écouter ce qu'elle dit, et que quand vous êtes dans un hôpital, il faut surtout ne rien dire, ne rien faire et vous laisser faire. C'est... Non. Non, c'est... On est dans un monde où on doit aujourd'hui apprendre aux soignants à être au service et pas vous êtes quelqu'un qui doit se laisser faire et accepter tout ce qui se passe autour de vous et surtout faites-nous confiance. Ben non. Faites-vous confiance.
Voilà. Merci. Clé, tu voulais...
Ouais, j'aimerais rebondir là-dessus aussi pour faire écho à ce qu'a dit Rina tantôt. C'est difficile, en fait, de tenir tête à une personne qui arrive avec... Il y a des biais de pouvoir qui sont gigantesques. Et que complètement y aller à deux, être accompagné, en fait, c'est primordial. Et moi, j'ai l'impression que c'est se redonner du pouvoir, c'est s'empouvoirer. Moi, en tant que doula, ça m'arrive d'être là pendant les consultations, même de routine, juste être là et être posée, écouter. Et j'ai déjà eu une doula qui est venue aussi avec moi en consultation. Et j'étais bien contente qu'elle soit là parce que moi, j'avais peur. Je n'osais pas parler, ça me concernait moi. J'étais en état de sidération presque, ça va vite, je ne comprends pas ce que la personne est en train de me dire. Et avoir une personne neutre là-dedans qui vient... Alors les questions qu'on avait, c'était ça, ça et ça. Je vois qu'on n'a toujours pas répondu à la question numéro 2. J'aimerais bien que vous me donniez une vraie réponse. Et bien en fait, ça aide. Donc je pense que, encore une fois, la collectivité, le collectif est super important dans ces luttes-là.
Désolée, j'ai déjà pris la parole, mais il y a aussi la notion de temps, parce que les soins médicaux vont de plus en plus vite, et moi, ça m'oppresse à chaque fois, et on sent bien qu'on n'a pas le temps, qu'on ne peut même pas poser de questions. Et l'autre chose, c'est que moi, je suis déjà allée accompagner, pas gynéco, mais à des consultations, certains médecins sont très vexés, et voire parfois refusent. Et donc, faites attention, parce que ça peut être une des réactions, et on ne s'y attend pas. Enfin, je préfère... Enfin, voilà.
Moi, je pense que justement, on doit vraiment, quand on arrive chez un médecin pour la première fois, poser son cadre. Et si ça ne clope pas avec le médecin, ce n'est pas le bon, tu pars. C'est tout. Tu te lèves et tu t'en vas, tu dis écoutez, ça ne va pas le faire. Et merci, au revoir. Et il y en a plein de médecins. Donc, sentez-vous libre de vous positionner, quoi. Nous, par rapport au projet de naissance, justement, c'était ça qu'on voulait aussi faire passer. C'était. Vous savez mieux que vous, mieux que ce que vous avez envie de vivre. Proposez-le. S'il y a une raison médicale justifiée qui fait que ça ne peut pas se faire, bah, oui, ok, il faudra lâcher prise et à ce moment-là, bah, il faudra faire confiance. Mais si on est dans le tout va bien, comme le cadre les sages-femmes, par exemple, dans les accouchements à domicile, si on est dans le tout va bien, allons vers ce qui nous fait plaisir. Maintenant, il y a des parents qui ont pris ça un peu au mot en disant oui, et alors moi, je voudrais presque une lumière rose à gauche et un petit voyant clignotant bleu à droite. Bon, c'est peut-être pas jusqu'au bout du bout qu'il faut rêver son accouchement ou les soins ou autres. Mais en tout cas, un cadre sécuritaire, ça, c'est vraiment le minimum. Et de respecter vos propres choix, c'est le deuxième minimum aussi, quoi.
Moi, dans ma pratique de sage-femme, il y a encore autre chose qui me choque énormément pour le moment, et de plus en plus, c'est que les femmes quittent la maternité, elles retournent à domicile assez rapidement maintenant, les séjours sont raccourcis. Elles arrivent à la maison, puis moi, je vais les voir à domicile le lendemain. Et alors, elles me sortent un tas de prescriptions, dont « Ah voilà, on est allé à la pharmacie et on a ramené ça. » Et elles me montrent la pilule d'allaitement. Et qu'est-ce que je dois faire avec ça? Comment je dois le prendre? Et en fait, moi, Hélène, je n'ai jamais pris la pilule de ma vie. En fait, je ne peux pas en prendre parce que... Et je dis, et voilà, et on t'a prescrit ça. Donc, en fait, elles sortent toutes avec leur prescription de pilule d'allaitement. Et donc, moi, déjà, je me pose, je m'assieds, je dis, asseyez-vous, on va en discuter. Je dis, d'abord, on va mettre ça de côté pour le moment, la question de la contraception. Tu viens d'accoucher, donc il y a un temps pour chaque chose. Et puis on prend vraiment le temps de parler de ça. Et je leur dis, moi, que ça me choque, en fait, qu'elles sortent de la maternité avec une prescription dont elles ne savent même pas ce que c'est, elles ne savent même pas comment elles doivent le prendre. Parfois, il y en a... Je me souviens d'une petite jeune comme ça qui m'a dit, mais moi, je n'ai jamais pris la pilule et je ne peux pas la prendre parce que j'ai telle et telle contre-indication de la prendre. Et elle rentre avec une pilule à prendre. Donc, enfin, moi, je suis horrifiée et je me dis, mais... si les femmes, s'il n'y a pas une sage-femme qui vient les voir à la maison et qui leur explique les choses, bah, elles vont manger ce comprimé sans savoir ce que c'est ni à quoi ça sert et avec peut-être des contre-indications à la prendre. Quoi. Donc je me dis qu'il y a, ouais, il y a quand même encore du boulot. Quoi. Voilà, il y a beaucoup de boulot.
Je ne sais pas ce que je vais rajouter, mais comme ça bouillonne à l'intérieur, il faut que je dépose ça ici avant de rentrer, parce que... oui, parce que c'est effectivement, c'est ça, c'est pas si simple. Moi, j'étais hyper informée, bon, c'est surtout autour de la grossesse que ça s'est vraiment renforcé, cristallisé, mais bon, je savais que ça allait se cristalliser pour la grossesse, donc j'étais déjà bien informée. Et je suis allée aussi voir... bon, ils m'ont induit, puis je suis allée avec une pote, et j'ai choisi ma pote militante, quoi, pour qu'elle vienne... parce que malgré que je savais ce que je voulais pas, et ce que, je savais aussi que je me décomposerais devant un gynéco avec toutes ces certitudes. Et du coup, ouais, c'est ça, juste enfoncer le clou, c'est pas si simple. Et c'est sûr que le collectif a une solution, et... Bon, c'est pas la solution, c'est une solution, mais c'est compliqué de la part des soignants. Là, ils m'ont laissé venir parce que comme le papa pouvait pas venir en Belgique, alors du coup, j'étais la pauvre petite, elle pouvait venir avec sa copine parce que le papa peut pas venir, mais s'il avait été là, même quelle copine va venir avec... si le couple, si les deux personnes sont là. Je sais aussi... La plateforme pour une naissance respectée fait des formations pour les soignants. Alors, je ne sais pas ce qu'il en a été après, mais la première, les soignants qui sont allés, c'était plutôt pour se défendre, en fait, pour voir ce qui est dit. Je ne vois pas trop... Voilà, c'est un peu négatif. J'ai déjà pris la parole hier soir en disant « Ouais, mais je suis un peu... » En plus, les gens sont super dépolitisés. Et donc, voilà, moi, j'ai envie de... En tout cas, bon, ben, les gens autour de moi, mais, hein, c'est un milieu blanc universitaire, on est bien d'accord. J'ai envie de faire des cercles, j'ai envie de rassembler les gens et tout ça, mais enfin, je sais que vous n'avez pas la réponse, mais comment on fait?
Ah, vas-y. Vas-y.
Mais on va prendre rendez-vous, parce que nous, on est partis de rien, à 80 personnes en train de se dire... Tiens, comment est-ce qu'on... Quel projet on a d'abord? Et puis, moi, je voudrais aller jusque la naissance plus l'allaitement. Ah bah non, il y a déjà la leche league, il y a déjà un fort allaitement. Ah oui, ok. Bon, bah alors, on va s'arrêter à la naissance, ok. Et puis, ah bah moi, si c'est pas l'allaitement, ça m'intéresse pas. Pouf, il y en a 20 qui partent. Enfin, tu vois, en petit groupe, ça s'est remis en concentrique petit à petit. Et puis après, on s'est dit, bon, bah, quelles ressources on a? Qui est-ce qui, au sein du groupe, sent capable de faire le site web? Ah bah moi, je suis webmaster. Ah bah super, bah, tu veux bien t'en charger? Ouais. Qui est-ce qui veut bien rédiger? Ah bah moi, je veux bien faire des fiches, mais pas tout le temps. Ah bah si tu veux, moi, je peux faire celle sur les sages-femmes. Ah bah moi, je connais bien l'accouchement dans l'eau. Et ça s'est mis comme ça, tout naturellement. Moi, j'avais une casquette de communicatrice, donc j'ai pris les RP, quoi. Et il y en a d'autres qui me disent, ah bah moi, je veux bien regarder les statuts de la SBL. Donc, chacun a pris un peu son rôle. Et comment communiquer? Bah, avec les réseaux sociaux, déjà, c'est vachement plus facile. Nous, on avait les mails. Et puis, on s'est dit, les sages-femmes sont assez demandeuses, on peut leur demander peut-être d'afficher ça dans leur cabinet. Et si elles vont dans des endroits, peut-être qu'elles peuvent demander de l'afficher aussi. Voilà. Donc, ça se démarre comme ça, et puis ça roule.
Ouais, enfin, j'allais juste rapidement dire, en fait, à partir de 3, on est déjà un groupe, en fait. Rien que ça, c'est suffisant. Enfin, en parler autour de soi, rencontrer une, deux personnes avec qui ça va résonner. Puisque quand ton problème est systémique, ça veut dire qu'il résonne avec plein de gens autour de soi. Et rien que là, on tient quelque chose sans forcément aller jusqu'à créer une ASBL ou quoi. Enfin, juste se poser à trois et parler de son vécu, de son ressenti, de son expérience. Et de rien, cette conversation peut venir germer énormément de choses, selon moi.
Et moi, dans les réflexions suite à la conf, de justement, c'est compliqué et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire, parce que dans ma conférence, j'amène des pistes. Et il y a une piste sur laquelle je parle pas en conférence, mais qui me trotte quand même, c'est faire des ateliers de self-défense. En fait, d'apprendre à prendre la parole, à dire non. Tu vois, juste pas spécialement d'apprendre à te fighter et à riposter physiquement, mais juste verbalement, arriver à dire non. Et de le faire justement en collectivité et donc apprendre à faire du self-défense, moi je trouve ça en fait le... Enfin j'en viens de plus en plus à me dire, bon bah c'est la base, il faut que... Va falloir tout s'y mettre en fait. Enfin, alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont plus facilement grande gueule ou qui vont réussir à, dans leur éducation. Enfin j'en sais rien de pourquoi il y a des personnes qui arrivent plus ou pas, mais en fait... Principalement, la moitié de la planète, on n'est quand même pas éduqué pour faire front. Et donc moi, c'est un peu ma conclusion, quoi, de me dire, faut y aller. Et à Bruxelles, il y a Garance ASBL.
Alors le livre Non, c'est non de Irène Zellinger, de l'ASBL Garance. Et il y a certains cours de Wendo aussi à Liège et ailleurs qui sont très très bons aussi. Wendo, c'est une technique, mais qui ressemble très fort à celle de Garance, mais qui n'est... C'est parce que je connais certaines formatrices, mais il n'y a pas d'ASBL, je ne sais pas exactement. Est-ce que vous avez encore des questions ou des commentaires? J'ai une question assez générale, mais pour toutes les quatre, c'est... On parle beaucoup de cet auto-examen, donc cet outil emblématique du spéculum qui est tellement important dans cette réappropriation. Et puis, il y a toute la démarche de l'autosanté qui est beaucoup, beaucoup plus large, bah, qu'on a découvert un peu, pratiqué un petit peu cet après-midi. J'ai l'impression que parfois, certaines, elles prennent ça comme un rite de passage ou comme une initiation, quoi, cet auto-examen, puis qu'elles vont faire une fois et puis plus jamais. Et en fait, pourquoi pas, hein, c'est pas forcément obligatoire de le refaire hein, tous les mois. Mais elles ne comprennent pas toujours l'idée de l'autosanté, quoi, cette démarche plus collective dont on a parlé. Ou inversement, il y a aussi la peur de faire cet auto-examen. Et puis donc, comment est-ce que vous voyez les choses, chacune des... Enfin, voilà, vous quatre. Parce que moi, parfois, je me pose la question dans la pratique. Quoi, je me dis, mais...
Je ne sais pas si vous pensez à fond.
Je suis assez claire.
C'est vrai que souvent, les personnes, elles viennent une fois. Moi, elles repartent avec leur spéculum. Mais je leur dis toujours, mais revenez en fait. C'est pas parce que vous l'avez fait une fois qu'il faut plus le faire en fait. Bon, j'ai jamais personne qui est revenu, hélas. Mais moi, je trouve que du coup, d'avoir observé mon sexe pendant des années, parce que j'anime ces ateliers, donc je montre à chaque fois comment mettre le spéculum, etc. Et en fait, c'est pas au bout de la première fois que j'ai compris exactement. Enfin, que j'ai capté tout le délire de mon sexe, en fait, c'est en le répétant, et le répétant, et le répétant, c'est en voyant mon col, je sais pas combien de fois, que, ben, en fait, je sais exactement comment il est, quand il est en bonne santé, et je pense que quand il sera en... Bon, j'espère pas, mais si je dois détecter un truc, je le détecterai plus facilement, et c'est pas en le faisant une fois. Pour moi, c'est quelque chose qui doit être répété, qui doit être présent... Parce que c'est un geste quand même intrusif, déjà juste de dire trouver ton col, parce qu'en fait même moi au bout de plusieurs années des fois je ne trouve pas mon col, et de pouvoir s'approprier son corps en fait, c'est pas en... pour moi, c'est... mais voilà, moi je trouve que c'est important que ça soit, enfin j'aimerais que les personnes qui participent aux ateliers puissent soit le faire chez elles... solo en fait, mais qui est de savoir qu'il y a une continuité derrière. Je me dis que ça peut être vraiment intéressant, qu'il y a plus d'impact. Ou peut-être qu'il y en a déjà en voyant une fois, je ne sais pas.
J'aime bien le côté rite de passage que tu dis, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'un seul rite de passage en fait. Il y en a plusieurs au cours d'une vie, sur des moments clés. Et la première fois qu'on observe son col, ce ne sera pas forcément de la même façon qu'on va l'observer la deuxième fois ou après un accouchement, par exemple. Enfin, déjà, il se passe à nouveau quelque chose. Et donc, moi, ça m'est arrivé dans mes ateliers d'avoir des personnes qui reviennent, mais plusieurs années après, pour me dire, en fait, là, Chantal, j'en avais besoin et j'en avais envie. Et ce n'est pas tant de regarder leur col elle-même, en fait. C'est plus de venir partager collectivement l'expérience du « on est plusieurs dans la même salle et on regarde notre col et après on parle » et qu'il y a un truc presque cathartique qui se passe à l'intérieur de cet atelier-là. Donc je trouve que c'est important et je trouve aussi que... en fait, souvent je me pose la question de quelle est la limite entre l'auto-observation et... Jusqu'à quel point l'autonomisation peut-elle être possible? Voilà, c'est ça ma question. C'est typiquement, ok, s'auto-observer régulièrement, mais continuer à faire des frottis de dépistage, par exemple, parce que ça continue à être important. Moi, de mon expérience personnelle, je faisais beaucoup d'auto-observation. Et puis, à un moment donné, j'ai fait un frottis. Et puis, ma sage-femme m'a dit « Oula, mais en fait, là, on a des sacrées lésions de HPV. » Et je ne les avais pas vues du tout parce qu'elles ne se voyaient pas. Et je me suis dit « Bah, c'est quand même pas mal que je sois allée voir une personne qui est vraiment formée et spécialisée là-dedans. » Parce que je serais restée tout seule à faire mes petits trucs dans mon petit coin et mon miroir, ben, je serais peut-être passée à côté de certaines choses. Et donc, ouais.
Alors pour moi, l'auto-examen, la partie auto-observation, c'est pas très important. J'ai fait des ateliers de sensibilisation où on fait une seule fois, mais uniquement dans un cadre féministe, lors d'un anticongrès, lors d'un événement collectif. Alors, on peut proposer un atelier de sensibilisation où on donne l'occasion à des femmes de découvrir ce que serait l'auto-examen. Mais ce qui m'importe, moi, plus, c'est de faciliter des groupes d'échanges, des groupes de parole entre femmes. Et ça, ça ne peut pas être qu'une seule fois, sinon ça a zéro intérêt. Donc, ces groupes, je suis sûre que presque la moitié de vous qui êtes ici travailler dans des cadres ou sociaux ou paramédicaux. Et vous avez déjà un public, vraisemblablement à plus forte raison, si vous vous mettez à plusieurs. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est qu'il y ait des occasions de former des groupes sur la ménopause, où elles se verraient 3 fois à 15 jours d'intervalle, ou des groupes sur le fibrome, ou des groupes sur la sexualité, ou des groupes sur la contraception, ou des groupes sur le cancer du sein, où elles se verraient peut-être 10 fois. C'est ça qui est intéressant. Et c'est là qu'il va se passer un échange qui va peut-être créer des moments de prise de conscience qui seront révolutionnaires pour elles et elles avanceront 10 fois plus vite dans ce processus que si elles avaient fait ce même travail à coup de consultation en tête-à-tête avec la plus formidable des soignantes qui soit en Belgique. Vous comprenez ? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Et dans ces groupes, si à un moment, elles décident qu'elles ont envie de faire de l'auto-examen parce que peut-être ça leur amènerait quelque chose, eh bien, elles le feraient. Et puis si elles ne le font pas, elles ne le font pas. Voilà. Donc moi, c'est ça qui m'importe. C'est l'échange. C'est que les femmes ne restent pas toutes seules chez elles avec leurs préoccupations et qu'elles aient un espace. Ça peut être dans une maison médicale, ça peut être dans un cabinet d'une sage-femme, ça peut qu'il y ait des annonces ou qu'il y ait des possibilités qui soient offertes pour regrouper des femmes qui ont une problématique commune pour qu'elles puissent partager et avancer ensemble. Voilà. Ça, c'est bien plus intéressant que le spéculum ou le pas spéculum.
Avec ça, quelqu'un a un autre commentaire?
Moi, il y a deux choses qui me viennent. J'ai aussi travaillé dans l'égalité homme-femme et donc j'ai pas envie de dire que ce sont que les femmes. Je trouve que ça concerne aussi les hommes. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des partenaires qui étaient concernés. Donc je trouvais ça chouette de le faire à deux et d'y réfléchir à deux. Mais je trouve aussi important de se retrouver entre femmes pour avoir d'autres façons d'aborder les choses. Donc je trouve ça très complémentaire. Et la deuxième chose, c'est par rapport à la naissance, c'est aussi un des rôles des sages-femmes d'être le pilier extérieur, celui qui tient le cadre, qui sait quel est le projet de naissance et qui peut être l'interlocuteur. Donc voilà, c'était les deux choses qui me venaient à l'esprit. Merci.
Edith, toi, tu ne voulais pas raconter quelque chose autour des plantes ou de l'engouement qu'aujourd'hui on voit autour de ces ateliers, ces herboristes qui prennent quand même plus d'ampleur aujourd'hui. Enfin, les herboristes aujourd'hui reprennent finalement du pouvoir et il reste 5 minutes. C'est pour ça qu'elle me dit ça. Ou vous avez une conclusion, enfin.
Simplement par rapport aux ateliers de self-help que vous facilitez, je vous suis toutes et le Facebook aussi de Autosanté. Je sais pas, les GAFAM n'ont pas envie que je participe à un atelier en live. Ça, je les trouve pas, à part le dernier qui a été annulé, mais enfin le dernier, je sais pas. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont prévus? Est-ce que c'est régulier? Non, c'est pas régulier, je sais, parce qu'il n'y a pas assez de monde, mais.
Moi, je suis en voyage pour une durée indéterminée. Donc, il n'y en a pas pour l'instant. Enfin, il y en a là où je voyage, en fait, mais du coup, pas en Belgique.
Faut la suivre.
De mon côté, il nous arrive à corps écrit d'organiser, de proposer certains ateliers, dont un auto-examen. Mais bon, parfois, effectivement, il y a 5 personnes, alors c'est très bien, mais ça ne suffit pas toujours. Puis bon, à corps écrit, il y a énormément de boulot autre aussi, et donc je réponds plus à la demande. Donc par exemple, je suis allée à Chauvetogne l'année dernière, c'était super. Et effectivement, 3 ou 5 personnes, ou 15, enfin 15 c'est déjà beaucoup, enfin tout est bon, mais je réponds plus à la demande de groupe que... Enfin, voilà, ça dépend, et comme tu dis, c'est pas régulier, mais c'est faisable.
Bah, vous pouvez recirculer une liste ce soir, hein.
Une fiche papier.
Une fiche. Je proposais aux femmes qui sont ici, qui a envie d'avoir un atelier, et est-ce que si on est suffisante, on ferait pas un groupe, voilà.
Tu parles d'un atelier auto-exploration gynécologique ou un atelier autre, comme on a vu tout à l'heure, sur les seins, ben on en aurait encore des heures pour en parler. La ménopause, comme tu dis, enfin, y a énormément de sujets.
Oui, moi, c'est vrai que j'en propose pas pour le moment, parce que j'ai eu besoin d'un temps, d'un petit peu de retrait, je pense, de prendre soin de soi en priorité avant de pouvoir prendre soin des autres. Enfin oui, moi je trouve qu'il y a souvent plein de questions logistiques autour de ce genre d'atelier qui sont parfois des freins, c'est-à-dire trouver une salle, ouais. Louer une salle, du coup dépenser des sous, du coup demander aux gens de venir payer pour ces ateliers-là. Et je trouve qu'on, enfin voilà, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, pour moi, l'idée c'est de pouvoir proposer ces choses-là gratuitement, mais du coup où, comment, c'est des questions à quelles répondre.
Après, je pense que le prix libre peut être tout à fait acceptable parce qu'à ce moment-là, chacune peut mettre ce qu'elle peut.
Alors moi, je suis méga pour le prix libre, mais j'ai déjà loué une salle et que en fait, c'est moi qui ai payé. Et donc, je passe 3 heures à animer et en fait, c'est moi qui sors des sous. Donc, mais je fonctionne que au prix libre. Mais attention aussi. Attention.
Au prix libre à partir d'un minimum. Mais bon, je comprends que c'est... Bon, non, mais bon, c'est tout un... Non, mais je suis d'accord que c'est complètement... voilà, c'est un gros questionnement.
Je suis un peu comme les deux autres. Pour l'instant, j'en propose pas vraiment régulièrement non plus, ou alors quand je voyage. Alors, je peux parler de mon expérience personnelle. Moi, j'ai fait mes ateliers. On a une copine qui en avait déjà fait une fois avec une autre copine qui en avait fait avec une autre copine. Elle nous a montré. On a acheté des spéculums à l'époque dans une pharmacie. Maintenant, on peut les trouver sur Internet. Et voilà, on a essayé ensemble. Donc, je pense que si c'est vrai que ça peut être frustrant de ne pas trouver des personnes avec qui peut-être on se dit on se sentira peut-être plus en sécurité pour débuter parce qu'elles auraient un peu de pratique. Mais... si on est avec quelques amis proches, on peut aussi se lancer soi-même et expérimenter en restant dans la bienveillance et l'écoute les uns des autres. Donc c'est aussi une option. N'hésitez pas à la prendre. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste, d'avoir fait d'études. Moi, personnellement, je n'ai pas de formation médicale dans la santé. J'ai tout appris en autonomie au fil des années. Voilà, avec des personnes... ressources plus ou moins expérimentées, parfois dans l'expérimentation, parfois des personnes qui avaient des formations depuis longtemps. Voilà, donc c'est possible aussi de se lancer et de faire les choses par soi-même.
Et justement, ça me permet de dire qu'on a publié des magnifiques référentiels, dont un qui est sur la table. Ce référentiel, on en a encore quelques-uns au bureau, il y en a quelques-uns ici, il y en a encore quelques-uns au bureau. Peut-être qu'on va le republier un jour. Mais en tout cas, ce référentiel vous permet à n'importe quel groupe ou quelle femme de retrouver les canevas d'animation et puis de se lancer, comme tu disais. Alors, il y a eu un premier référentiel là qui a été édité chez Le Monde selon les femmes, qui est encore disponible aussi pour d'autres ateliers. Mais donc, il y a toute une série d'outils en tout cas qui sont là quoi, qui sont disponibles, et vous pouvez toujours voilà nous contacter si, pour une question ou autre.
Alors mon mot de la fin, si vous permettez, ce serait de vous expliquer ce que c'est que Mama Mélisse, puisque ça a été posé au début. Alors c'est un mix de la mamelle, ce qui se transmet de mère en fille, de la mamélisse et de la mélisse. Et le mix donne Mama Mélisse. Et c'est une petite maison d'édition dont les catalogues sont là. J'en suis à ma 3e soirée de présentation, donc j'ai plus beaucoup de livres. Ils sont tous partis, je regrette. Mais il reste quand même La sorcière des temps modernes, qui est la présentation du mouvement de santé des femmes et du mouvement self-help à 10 euros, ça peut peut-être vous donner quelques idées pour former des groupes.
Est-ce que... Encore un mot de la fin, Clé ou... Donc, merci à vous
merci.
Tous et toutes. Et...
Cette table ronde a été enregistrée lors de la Journée mondiale d'action pour la santé des femmes le 28 mai 2024 à la Citadelle de Namur. Elle était organisée par le Réseau Wallon pour la santé des femmes qui rassemble une dizaine d'associations. Fredou Braun animait le débat, elle est active dans la SBL Corécrit. Outre les participantes, vous avez entendu Rina Nissim, naturopathe suisse, qui était de passage en Belgique, et aux côtés de celle-ci, Clémentine Thébault, sage-femme, et Clé Jordier, doula communautaire Cuia. Le thème du débat était « Comment repenser collectivement la santé des femmes et leur bien-être, hors des injonctions et des discours normatifs sur leur corps, leur choix et leur manière de vivre ?» Retrouvez cet enregistrement sur le site lapsusalorey.be.